Bonjour et bienvenue dans les Agités de la classe numéro 13. Les Agités de la classe, c'est le podcast qui agite ta classe. Et pour ce numéro, eh ben, on a Fred. Salut Fred.
Salut Seb, ça va bien ?
Ça va bien et toi ?
Bah, ça va. On vient de passer Halloween, on enregistre le numéro 13, tout va bien.
Ouais, tout va bien. Alors effectivement, là, pour ce numéro, entre mecs, hein, on n'a personne d'autre de dispo sous la main, mais on va quand même faire un numéro sympa. Alors de quoi on va parler dans ce numéro ? Qu'est-ce qui nous attend ?
Eh bien, on va parler d'évaluation. Alors bon, l'évaluation, c'est très, 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 très large. Donc cette fois-ci, on va parler exactement de grilles et de grilles d'évaluation sommatives.
Ouais, ça, ce sera notre point qui tue, et après ?
Et ensuite, donc, comme d'habitude, on aura les ressources des agités. Donc, je dis les ressources, on va chacun un petit peu parler de quelque chose. Et enfin, donc, l'habituel coup de cœur, coup de gueule.
Super, et ben, c'est parti tout de suite pour le point qui tue sur les grilles d'évaluation. Alors, on va parler de grilles, effectivement, d'évaluation. Alors, souvent, elles sont associées aux évaluations... sommatives, mais moi je les utilise aussi avec des évaluations formatives. Alors la différence quand même, c'est que je fais parfois des évaluations formatives avec des grilles, mais pas tout le temps. En revanche, sur les évaluations sommatives, là, il y a tout le temps une grille qui accompagne mes évaluations. Fred, la différence entre... Et l'évaluation sommative, formative, ça va pour toi ou
Ouais, peut-être, je crois. On va peut-être faire un petit point rapide quand même, parce que je sens déjà que pendant le numéro, on va s'en mêler les pinceaux. Peut-être pas
C'est clair qu'on va s'en mêler les pinceaux.
Peut-être pas par rapport à la définition. Quoi. Je vais te proposer quelque chose, tu vas me dire si c'est bon ou pas. Mais plus par rapport à sommative, formative, ça, il y a deux mots en tif-tif, il ne va pas falloir se tromper. Donc, moi, ça ne me surprend pas trop ce que tu dis. Vu que pour moi, la sommative, j'y associe déjà tout de suite l'idée de note, de quelque chose de chiffré. Et donc, la grille, effectivement, il y a des critères, etc. Pour moi, le sommative, il y a souvent une espèce d'enjeu. Bah, c'est l'interro, c'est nos compositions qu'on avait, nous, en classe. Alors que la formative, là, pour le coup, je trouve ça un peu plus clair. Moi, donc, formative, l'idée de se former, d'apprendre, d'apprentissage, j'associe plus l'évaluation formative à donc une manière d'améliorer l'apprentissage et l'apprentissage des deux côtés, j'ai envie de dire, hein, pour les apprenants, leur manière d'apprendre, et pour nous, les enseignants, notre manière d'enseigner. Pour faire un point par rapport à cette manière d'apprendre et d'enseigner et d'essayer de l'améliorer. Voilà un petit peu ce que j'ai en tête. C'est à peu près correct ou...
Ouais, complètement. Ouais. Effectivement. Alors, du coup, dans ce que tu dis, il y a ça a une influence sur le moment de la formation, puisque effectivement le moment de l'évaluation, pardon. Donc effectivement, sur une évaluation formative, elle a lieu plutôt pendant la formation. Parce que le but, c'est quand même de corriger le tir si y a une évaluation qui n'est pas parfaite. Donc, elle fait partie de la formation, elle se déroule pendant la formation. Alors que l'évaluation sommative, elle aura plutôt lieu après, pour vérifier les acquis. Et souvent, elle est, tu t'en parlais aussi, elle est liée l'obtention d'un niveau, d'un diplôme, d'un certificat. Donc, elle est certificative dans ce qu'on dit.
Oui, c'est vraiment une étape. Hein. On n'est vraiment pas du tout en cours d'apprentissage et surtout pas en cours d'acquisition. Je dis surtout pas parce que je trouve que l'évaluation sommative, elle est perçue quand même assez différemment par les apprenants, vu que je parlais d'enjeux tout à l'heure. Toi, tu parlais de certification, quoi, qualité certificative. Donc, il y a un enjeu. Donc, pour moi aussi, j'associe la notion de réussite et d'échec à la sommative. Et donc, en plein moment de, quand on est en pleine acquisition d'un point, si on s'amuse à mettre une évaluation comme ça, ça peut casser l'apprentissage, je pense, de l'apprenant qui risque d'être mis en échec, alors qu'en fait, il est tout simplement en cours d'acquisition et c'était pas nécessaire de lui taper dessus avec une note.
Ouais, exactement. Et donc, pour ces évaluations sommatives, ce qui est important, c'est de définir un seuil de réussite. Et ça, c'est pas toujours simple. Bon, alors là, ça c'est les grandes lignes, un petit peu de l'évaluation, mais si on l'applique à nos différents contextes d'enseignement. Si je prends le cas par exemple de mon travail, on a ce qu'on appelle une évaluation continue. Mmh. Donc on fonctionne par tâche, par projet, et pendant la période de cours, nos apprenants qui sont en évaluation continue vont avoir 3 évaluations. La première est donc ils vont faire 3 tâches. Les 3 tâches sont évaluées et on va avoir une première tâche qui, elle, ne va pas compter. Ils auront une note, ils auront des critères, ils auront un retour, mais elle n'aura aucune influence sur le seuil de réussite ou d'échec. En revanche, les 2 autres projets, les 2 autres tâches qu'ils vont réaliser, eh bien là, ça va compter pour passer au niveau supérieur ou pas. Et donc là, ils auront une note, ils auront des grilles, ils auront aussi une séance de remédiation parce qu'il faut continuer l'apprentissage, mais en même temps, ça commence à faire partie de leur certification. Donc on commence à être sur un truc hybride, tu vois, pas tout à fait net, et avec ce problème qui se pose chaque trimestre. Est-ce que on communique la note de la tâche numéro 2 à nos apprenants ou pas? Parce qu'effectivement, s'ils réussissent pas, ils savent qu'ils doivent continuer la période de cours sans espoir de réussir.
Et donc, du coup, ils auraient pas envie de faire la tâche 3, c'est ça? Ou...
C'est la crainte de mes collègues et de moi-même.
Pas très bien compris, en fait, du coup, la tâche 2, selon la note qu'ils ont, on ne leur communique pas, en fait, ils vont continuer donc, à apprendre, mais de toute façon, il y aura encore un certain temps, on va dire, un certain délai pendant lequel ils vont continuer à prendre des cours et à développer leur apprentissage, mais c'est de toute façon au niveau de l'idée de réussite, ça c'est foutu, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Exactement.
Ah, ok, d'accord.
Okay. Ouais, parce qu'en fait, il y a une tâche qui est à l'oral et l'autre qui est à l'écrite. Et notre système administratif fait que tu dois rentrer une note à l'oral et une note à l'écrit. Donc, ils peuvent effectivement rater l'oral, réussir l'écrit ou inversement.
Mais ils doivent réussir les deux pour pouvoir.
Doivent réussir les deux pour passer. Et pour l'instant, on n'a pas le moyen de dire que, tu vois, un peu comme un système de crédit, il dit. On pourrait leur proposer une formule un peu accélérée ou une formule un peu remédiation pour s'ils refont le niveau, tu vois, genre mettre l'accent sur l'oral, etc. quoi.
Et pas. Ouais, tout à fait.
On l'avait prévu, on l'avait fait pendant un moment, mais maintenant on manque un peu de ressources humaines pour pouvoir continuer.
Ah ben oui, c'est toujours là.
Donc voilà un petit peu le contexte. Donc ces évaluations formatives, sommatives, on a expliqué, mais bon, parfois, selon le contexte d'enseignement, ça peut fluctuer. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement là où je donne des cours, mais c'est plutôt comment faire une grille, justement. Et le principe d'une grille, c'est d'avoir des lignes et des colonnes, n'est-ce pas ? Et puis on va essayer de voir ce qu'on peut mettre dans ces grilles et ces colonnes. Toi, t'en as fait des grilles d'évaluation ou pas trop, Fred ?
Alors absolument pas. Non, je dis absolument pas non. Si j'ai fait faire une grille d'évaluation, mais c'était une grille d'auto-évaluation pour une session d'autoscopie. Que j'avais fait ça avec Olivier Massé, qu'on avait reçu pour le tout premier Agité du Fleu.
C'est notre parrain.
Donc c'était pour pour les enseignants, et on avait réalisé la grille ensemble, donc dans notre contexte, tout à fait dans notre contexte d'enseignement. L'objectif était en fait de se filmer après en cours et de regarder la vidéo tout seul. On n'était pas obligé de la montrer aux autres, et de s'évaluer en fait c'est une épreuve assez terrible. On a un peu envie d'arrêter le boulot de prof après cette revue faire court. Mais voilà, donc oui, on a fait une grille d'évaluation, donc d'auto-évaluation pour nous-mêmes. C'est la seule que j'ai réalisée à mon grand dam, parce que parfois on aurait eu besoin. Nous, on était demandeurs, les profs, d'évaluation et parfois même d'évaluation sommative pour le mouvement des apprenants dans l'institution, parce que là, c'était un petit peu à la carte et ça créait des petits soucis au niveau hétérogénéité. On a toujours des classes hétérogènes, mais quand vous avez un apprenant qui est vraiment pas le niveau ou même le comportement, les savoir-être qu'il faut et qui choisit d'aller dans une classe où il n'a pas le droit d'aller, c'est qu'il n'a clairement rien à y faire, ça va être un problème pour lui, pour le prof et pour ses collègues, pour ses camarades. Voilà, ça, on était plutôt demandeurs de ce genre d'évaluation, donc je n'en ai pas fait. Est-ce que ça compte quand même, une grille d'auto-évaluation ?
Ah ouais, pour moi c'est absolument absolument nécessaire de le faire. Déjà, pour toi en tant que prof, alors là tu parles de grille d'auto-évaluation, hein. Donc c'est une grille qui elle était un peu spéciale, ta grille, parce que c'était une grille pour les profs, pour évaluer leur boulot de prof. Mais si tu le déportes dans ta classe, avec écoutez, voilà ce que vous allez faire, voici ce que je vous demande de faire comme travail, et puis vous allez vous évaluer vous, ou vous allez évaluer vos partenaires, au moins ça clarifie les consignes.
Tout à fait, ouais.
Pour chaque critère, donc moi je mets plutôt horizontalement les critères en général, ça va être une partie de la consigne. Donc si on prend un exemple, je leur demande de décrire leur travail, je vais avoir en grille d'évaluation, par exemple, comme premier critère, est-ce qu'ils donnent le nom de la profession ? Est-ce qu'ils me donnent une définition de la profession ? Est-ce qu'ils me parlent des conditions pour pouvoir accéder à cette profession ? Est-ce que j'ai, je sais pas, les compétences nécessaires, les avantages, les inconvénients, le développement de carrière, on peut imaginer tout un tas de trucs. Mais si ma consigne à la base était simplement décrivez votre travail, eh ben on voit qu'en fait c'est super large. Et quand tu veux évaluer et que tu dis bah tiens, il me faut ça comme critère, tu dis ah bah tiens, je vais revoir mes consignes, et au moins ça va être beaucoup plus clair pour eux et pour toi. Pour toi, dans ce que tu attends d'eux, et pour eux, comprendre ce qu'ils doivent faire, finalement, pour décrire leur travail.
Et du coup, ça peut être très intéressant. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, j'en ai fait d'autres degrés. Ça peut être très intéressant aussi, je pense, selon le cas et puis le temps qu'on a alloué à la tâche en cours, du coup, de faire réfléchir aux critères, aux apprenants, d'élaborer, pourquoi pas, les critères. Bien sûr, le prof peut y avoir réfléchi en amont, mais on peut faire en sorte que la grille soit réalisée par les apprenants.
Ah bah,
moi, j'avais déjà testé.
Ah, complètement. Et c'est encore plus facile si tu associes ça à un contexte. C'est-à-dire qu'au lieu de leur dire « parlez-moi de votre profession », tu mets un contexte, genre « vous devez faire une vidéo de 2 minutes qui sera publiée sur le site, un site pour les enfants pour expliquer le travail ». Et là, du coup, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et là, tu peux dire, qu'est-ce qu'on met dans ces vidéos ? Est-ce que vous voulez regarder des exemples pour voir comment c'est fait ailleurs ? Quel modèle on va utiliser ? Et puis, et là, c'est beaucoup plus concret. Hein.
Complètement. Ouais.
Alors, justement, sur ces critères d'auto-évaluation, on va avoir, j'ai parlé par exemple beaucoup de critères un peu pragmatiques, hein, c'est-à-dire comment organiser un petit peu son discours. Et puis après, on peut avoir des critères qui vont plus s'intéresser cette fois à la langue en elle-même, l'utilisation de la langue. Et en fait, moi, je me rappelle que mes premières grilles d'évaluation, les premières que j'ai vraiment conçues, je les avais faites en 3 ou 4 critères avec, j'avais mis par exemple pragmatique, Après, j'avais mis quelque chose comme la morphosyntaxe, la prononciation, ou des choses comme ça, tu vois. Donc, des critères très, très linguistiques, un peu de sociolinguistique aussi. Et c'était un peu tout. Et ensuite, j'avais mis le nombre de points dans mes colonnes, si tu veux.
D'accord.
C'est ce que
j'allais te demander, ouais, par rapport justement, parce qu'on a beaucoup parlé de critères, par rapport au point, parce que par exemple, moi, l'idée qui m'est revenue quand j'avais fait faire les critères, c'est vrai que j'avais pas utilisé des points, j'avais utilisé ce que je suis sûr beaucoup d'autres collègues font, des smileys, tu sais, qui font plus ou moins la tête. Donc, et du coup, les points, ça, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais ça m'intéresse un petit peu, quoi. Comment tu arrives à tu pars quand même sur de grandes échelles ou
Alors le fait est que effectivement ces premières grilles d'évaluation que j'avais faites, moi je devais produire une note sur 20 ou sur 100 à la fin, si tu veux. Et je me dis bon, c'est pas très important, mais en fait le nombre de points de l'évaluation finale est important. Donc s'il est défini par ton institution, t'as pas trop ton mot à dire. Et tu peux essayer de biaiser, c'est-à-dire que tu fais une note sur 20 et tu dis bon, je la multiplierai par 5, sauf que c'est pas tout à fait pareil. Et parce que très vite quand tu sanctionnes un petit peu sur la note finale, ça fait une grosse sanction. Et il faut pas perdre de vue aussi l'habitude culturelle que peuvent avoir certains apprenants. Nous par exemple, enfin je pense que tous les deux on a fait nos études en France et on est des gros habitués de la note sur 20. Et pour d'autres, comme les Américains, ils peuvent être habitués soit à des lettres, soit à des notes sur 100. Et généralement, il y a une correspondance entre les notes sur 100 et les lettres. D'accord ? Donc effectivement, pour toi, si tu veux, si tu dis je mets ma note sur 20, bon, t'arrives un peu à un 15 sur 20, par exemple. Bah, si tu multiplies ça par 5, ça fait 75. Eh ben là où 15 sur 20 c'est une note qui est quand même assez correcte, je pense pas, tu vois, que tes parents te disputent pour un 15 sur 20, alors que un 75 sur 100, c'est pas top, parce que effectivement sur 100 tu peux avoir un 80, tu peux avoir un 82, un 83, tu vois, 78, toutes ces nuances là tu les fais disparaître si tu multiplies. Donc ça déjà c'est problématique.
En fait, et les apprenants, peut-être, peuvent, excuse-moi, je t'ai un peu coupé la parole, mais parce que là, tu dis, après, tu peux le multiplier par 5, mais en fait, même si on ne le fait pas et qu'on annonce à nos apprenants, ça va être sur 20 parce que c'est comme ça en France, eux, peut-être, de par leurs habitudes dont tu parlais, vont dans leur tête faire le calcul, parce que pour eux, le 15 sur 20 ne va rien représenter, et du coup, ils vont avoir une mauvaise image de leur résultat, alors qu'en fait, c'était mal.
Ouais, ouais. Ouais. et en plus de ça, on a quand même, été plus habitués à des matières comme la littérature, la philosophie, des choses comme ça, où la note maximale était difficile à atteindre. Et c'est le cas de beaucoup de profs de FLE finalement, hein. La note maximale est beaucoup plus difficile à atteindre que par exemple en maths, où un 20 sur 20, tu vois, est tout à fait justifiable, et il est beaucoup plus difficile de le justifier en philosophie par exemple. Donc
tout à fait. Bon,
du coup, on a un peu cette habitude-là. Si en face de toi, tu as des apprenants qui sont plutôt des scientifiques, il faut quand même pouvoir leur expliquer que dans ces matières-là, c'est compliqué. Parce que là où en maths, c'est le 20 correspond à zéro faute, d'accord ? Si on applique cette règle-là en français... Mais jamais personne n'aura la note maximale. Mais du coup, à quoi elle sert, cette note maximale ?
Ouais.
Tu vois ? Donc, il faut pas avoir cette vision mathématique comme ça. Et donc, une production imparfaite, pour moi, peut atteindre le maximum de points.
Le maximum de points.
Et ça, il faut faire attention dans sa grille à avoir le nombre de colonnes, savoir que bah, tu as toute cette grille pour jouer. Et on revient à notre problème de points, parce que si tu as une note sur 100, imagine tu as 5 critères, tu vas donc les mettre tous sur 20. D'accord. Et là, tu commences à devoir diviser tes 20, ou alors tu mets 20 colonnes à un point chacune. Mais dans ce cas-là, sur le nombre de points, comment tu fais la différence entre un 18 et un 19?
Ouais.
Tu vois? Donc ça devient très très vite complexe. Et moi, j'ai pris l'habitude, parce que les premières grilles dont je parlais tout à l'heure avec mon pragmatique, mon linguistique, sociolinguistique, etc., je faisais 10 colonnes à peu près. Et en fait, j'étais incapable vraiment de justifier pourquoi je mettais un 7 ou un 6, parce que j'avais beaucoup trop d'amplitude. 10 points, c'est 10 colonnes, c'était beaucoup trop, en fait. J'étais incapable de le faire. Donc, j'ai plutôt l'habitude de réduire mon nombre de colonnes déjà à un nombre impair. Un nombre pair, mais j'explique pourquoi. Un nombre pair avec, toujours la première colonne qui est si la personne n'a pas participé.
D'accord.
Donc j'ai ma première colonne qui, la personne n'a pas participé, et après je vais avoir en général 4 colonnes.
Donc du coup, tu es sur un impair alors, hein, on est d'accord.
Je suis sur un nombre de colonnes impair, mais si la personne a travaillé, je suis sur un... Voilà, le principe est de ne pas laisser un truc au milieu. Parce que quand on ne sait pas, on choisit le milieu.
Oui, ouais, tout à fait. C'est pour ça que dans les questionnaires aussi, il ne faut jamais laisser au milieu la possibilité. Il faut que les gens doivent faire un choix.
Et nos collègues de l'éducation nationale, ils utilisent souvent ces trucs de non acquis, en cours d'acquisition acquis. Et en fait, quand tu sais pas trop, tu mets en cours d'acquisition et ça règle le problème. Bon, ce qui est pas, moi je suis pas tellement un partisan de ça. C'est vrai que ça simplifie beaucoup le travail de choix de la note, hein, parce que tu mets tes 3 colonnes, puis en gros tant que c'est pas bien, bon bah c'est un peu au milieu, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc ce truc là de acquis en cours d'acquisition, non acquis, c'est pas quelque chose que moi je recommande. Donc je mets en général mes points. Mais en fait, ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est de décrire ce que j'attends dans chacune de mes cases. C'est-à-dire que j'ai ma compétence, je vais dire par exemple, allez, je veux évaluer la morphosyntaxe, d'accord ?
Oui.
Je travaille avec des apprenants de niveau A2. Donc, dans ma ligne, j'ai morphosyntaxe. J'ai la colonne pas fait, donc qui a 0 points, d'accord ? Et j'ai ensuite une colonne à 1, 2, 3 et 4 points, d'accord ? Et bien dans chacune de ces cases, je vais essayer de décrire ce que j'attends. C'est-à-dire pour ma première case, donc pas fait, la deuxième case, je vais mettre beaucoup d'erreurs dans des structures simples. Ensuite, je vais mettre quelques structures simples, réussies, absence de structures complexes, et je mets entre parenthèses deux verbes, par exemple. Je définis aussi en fonction de ce que j'ai enseigné, donc c'est un peu compliqué de parler comme ça dans le vide, c'est pas absolu, quoi. Après, je vais mettre beaucoup de réussites dans les structures simples, quelques tentatives de structures complexes, et après, je vais mettre très peu d'erreurs dans les structures simple et quelques structures complexes réussies.
Ouais.
Tu vois. Et comme ça, ma note maximale ne correspond pas à une utilisation parfaite de la langue.
Non, mais tout à fait. De toute façon, en A2, même en C2, non, en C2, je crois que ça disparaît un petit peu tout ce qui est. Mais on est bien d'accord, tout à fait. Mais après, est-ce que ça revient pas aussi un petit peu au niveau culturel, quoi. Moi, j'ai gardé un peu l'idée de des évaluations sommatives, quoi, des interros et tout ça. La note était vraiment comme une sanction, donc j'ai envie de dire qu'elle était, elle était très négative. C'est-à-dire, c'est ce qui nous a marqué, je pense, avec les dictées. C'est pareil dans toutes les écoles de France et de Navarre, j'imagine. C'est que la dictée, ça sanctionne à chaque fois que t'as une faute, ça diminue. Alors que le processus que tu décris, moi, je pense que c'est plutôt effectivement par rapport à, tiens, t'arrives à réussir ça, bon, ben, tu arrives jusqu'à ce palier-là. Je pense que tu.
Bah, la dictée, c'est le contre-exemple parfait parce que tu pars avec la note maximale. Et
c'est
puis
ça.
Tu baisses en fonction d'erreur que tu produis.
Mmh. Ouais. Mais c'est terrible comme système parce que du coup tu peux avoir zéro tout en ayant réussi plein de choses à côté.
Ouais.
Et du coup ouais quand tu parlais de j'aime bien le côté en fait ta première colonne donc qui correspond à un zéro c'est le pas fait parce que du quoi nous en français sauf si l'élève ne vient pas ou alors se tait quoi bloque complètement il y a toujours quelque chose qui est produit donc logiquement il y a toujours quelque chose qu'on peut évaluer et auquel on peut attribuer des points je veux dire c'est quand même difficile de mettre un c'est pas de la pitié hein, c'est difficile de mettre un zéro à quelqu'un normalement
ouais non, mais vraiment ma première colonne c'est absent hein.
Oui, c'est absent, d'accord. C'est même pas.
Ouais, c'est ça. Bah, absent, enfin, je veux dire, il est absent ou pas fait si c'est à faire à la maison ou des
voilà,
choses comme ça.
Oui,
quoi.
Il a pas fait ou blocage complet, quoi, si c'est à l'oral.
Ouais, blocage complet, ouais, c'est. Ouais. Bah, pourquoi pas, hein, mais c'est, tout est envisageable, mais c'est vrai que c'est toujours un peu. C'est quand même difficile si la personne se présente. Tu vois, ouais, moi vraiment, mais ça m'est jamais arrivé, moi, de quelqu'un qui reste complètement muet, qui ne dit rien, tu vois.
Ça m'est jamais arrivé non plus. J'ai toujours eu des choses un petit peu.
Ça peut être laborieux, mais quand même. Alors, évidemment, hein, ce type de grille comme ça, c'est beaucoup plus long, hein, c'est fastidieux à faire. Mais, mais au moins, ça permet d'être plus clair, toi, avec ta façon d'évaluer.
Oui, c'est beaucoup plus clair. Mais tout ça, ce sont des grilles. Donc, tu disais que tu avais fait tout seul. Moi, sur ce genre de choses aussi détaillées, j'avoue que j'attendrais aussi éventuellement, quoi, de temps en temps, pourquoi pas, mais que ça soit dans une institution, que ça soit un petit peu à l'échelle de l'institution, qu'il y ait une espèce d'entente et de. J'aime pas trop le mot standardisation parce que malheureusement, quand on parle d'évaluation maintenant, c'est un peu le problème, c'est qu'on est sur une standardisation un peu trop globale. Mais oui, en tout cas, au niveau d'une institution, on évalue les apprenants sur des mêmes critères. On évalue les apprenants, on fait la même genre d'évaluation sur les mêmes critères. Il me semble que ça paraît être logique. Tu fais tout seul, tout ça ou...
Non, alors, oui et non. C'est-à-dire que on a quand même produit pour nos évaluations continues et nos évaluations finales des grilles en équipe, mais on a tâtonné beaucoup. Et on a encore aujourd'hui des grilles dont on n'est pas satisfait et qu'il faut qu'on refasse. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, parce qu'il y avait des moments comme ça, on avait des grilles pour des évaluations continues, et finalement, on n'arrivait pas quand même au même résultat en fonction de l'enseignant. Donc ça veut dire, c'est pas parce qu'un enseignant est plus laxiste, plus large qu'un autre, mais c'est tout simplement que si tu définis pas chacun de tes critères, si t'as que le nombre de points, imagine t'as le nombre de critères et le nombre de points, et t'as pas une description à l'intérieur de ce que tu mets, et ben tu vas nécessairement te mettre, je veux dire, un seuil de réussite à presque inconscient, tu vois, que tu vas installer toi-même et qui sera pas verbalisé.
Mmh.
Ça veut dire que si tu as un groupe un peu faible et que tu évalues le groupe d'un collègue qui est plutôt fort, tu vas dire, ouais, ils sont super bons. Si toi, tu as un groupe qui est assez performant à l'oral, tu vois, par exemple, et un peu moins à l'écrit, tu as l'habitude d'écouter tes apprenants, tu as l'habitude de corriger leurs écrits, et tu vas inconsciemment te fixer ton seuil pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Mmh. D'accord ? Et donc, si tu n'as pas ces descriptions-là, finalement, tu fais une espèce d'évaluation comparative.
Oui, complètement.
En disant, bah, lui, je lui ai mis la note maximale, lui, c'est un peu moins bien, je descends d'un cran. Mais c'est pas dans l'absolu. Alors que ce qui est important quand tu décris chacun de ces critères, c'est justement de pouvoir noter dans l'absolu sans avoir à comparer avec d'autres copies. Donc, ça paraît super logique quand je le dis, mais en fait, on l'a quasiment jamais fait. Et on a commencé à le mettre en place quand on a passé nos évaluations sur Moodle. Parce que sur Moodle, quand tu donnes un devoir, donc pour ce qui est assignment en anglais, donc nous on le fait pour les évaluations de projet, tu peux choisir d'évaluer à l'aveugle ou d'évaluer avec une grille. Et quand tu fais une grille, tu détermines tes critères, donc ça c'est ce qui est horizontal.
D'accord, ouais.
Tu détermines verticalement les niveaux. Et dans chacune des cases, il t'oblige à mettre quelque chose.
À définir les niveaux, donc. C'est ça ?
Tu es obligé de définir les niveaux pour chaque critère. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, mais ouais, mais en fait, on n'était pas super, super clair parce qu'on n'avait jamais défini ces niveaux, quoi.
Complètement, hein, tout à fait. C'est une note... Même sans aller dans la comparaison, on peut avoir des attentes différentes sur par rapport à son expérience, on va dire à l'ensemble de son expérience. Mais effectivement, le problème est encore plus terrible quand, par exemple, si ce sont des entretiens, et donc du coup particuliers, hein, une personne à la suite des autres, il faut toujours garder en tête, de faire table rase et de revenir à zéro, ce qui est assez difficile. D'ailleurs, toi, tu as parlé un petit peu dans un sens un peu négatif, ça peut être dans un sens positif aussi. Si on a 3, 4, 5 élèves qui sont vraiment mais nuls, c'est pas parce qu'il y en a un, le sixième est un peu meilleur, je veux dire qu'il faut nécessairement lui mettre, par exemple, la note qui lui permet d'être en réussite s'il n'a pas atteint les critères et donc, du coup, la définition des différents niveaux. Ça peut se faire des deux côtés, quoi, en positif et en négatif.
Exactement. Et puis, du coup, on boucle un peu avec évaluation formative ou sommative, parce que l'intérêt quand même de ces grilles de critères, donc ces grilles d'évaluation, c'est de les communiquer aux apprenants. Alors après, bon, avant... pendant, après, ça aussi Moodle permet de le faire par exemple, mais pour moi c'est important de les avoir avant et après aussi, et pas seulement avoir la note à la fin, tu vois, mais de pouvoir voir ces grilles. Comme on a une description de chacun des niveaux par critère, ça peut contribuer. Alors c'est pas formatif parce que la formation est terminée, mais au moins la formation est terminée du point de vue du prof, mais du point de vue de l'apprenant, non. Donc il peut voir où il doit encore travailler, ce qu'il peut améliorer, ce qui va bien, et du coup ça a une valeur aussi un peu formative.
Oui, tout à fait. Ok, ouais, on l'a effectivement. C'est la boucle est bouclée. Mais ben comme tu le disais, si tout est clairement défini, parce que sinon, l'apprenant va se retrouver avec une note générale, globale, et il va se dire, mais tiens, mais là, pourquoi j'ai eu que 2 et pas 2,5 ou 3 ou je sais pas.
Ouais. Et là, honnêtement, tu vois, c'est quand même super difficile à faire. Donc moi, des grilles d'évaluation, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. J'ai fait beaucoup plus de grilles ratées que de grilles réussies. Et même mes grilles les plus réussies, je les trouve pas non plus au top. Parce que si on reprend l'exemple que je donnais tout à l'heure, tu vois, entre beaucoup, quelques, tout ça, c'est pas non plus très clair.
Il
faut parler de majorité, tout ça, ouais.
Ouais. Mais disons que si tu es le seul à utiliser la grille, ça va. Si plusieurs apprenants vont être évalués donc avec cette même grille par différents enseignants, il faut être sûr. Il faut au moins essayer que les enseignants soient allés jusqu'à ce détail-là, comme tu dis, que le beaucoup, c'est quoi beaucoup et, parce que selon les personnes, effectivement, beaucoup, ça peut représenter plus ou moins. C'est philosophique.
Et normalement, c'est ça. Une bonne grille d'évaluation, si elle est bien renseignée, etc., n'importe qui peut l'utiliser sans se poser de questions.
Sans se poser de questions. Ouais, donc c'est quand même c'est un gros boulot, quoi. C'est pour ça que je te demandais si tu faisais toujours ça tout seul.
Non, mais alors en fait maintenant donc sur Moodle, quand j'ai commencé à mettre en place les grilles, je faisais une proposition. Et puis en fait, malheureusement, c'est en la testant la grille que tu peux dire ah mais non, ça marche, ça marche pas, et donc tu reviens dessus parce que c'est quand même super dur. Tu fais une grille et puis il faut la tester, il faut l'expérimenter, mais sauf que le seul test et la seule expérimentation, c'est vraiment pendant l'évaluation finale. Donc quand tu te retrouves avec je sais pas moi 3 groupes de 15 apprenants qui ont passé un examen, tu dois les évaluer, tu as cette grille-là, donc il faut que tu corriges, tu as un temps limité pour faire tes corrections, et tu dis « Ah purée, la grille marche pas », tu es quand même obligé de l'utiliser. Et
ouais. Tu ne peux pas t'amuser à la refaire alors que l'apprenant est en train de parler.
Ben non, puis bon, tu vois, des sujets d'examen aussi, c'est pas simple à faire. Donc, tu peux pas dire, tiens, on va faire un sujet blanc comme ça, on va demander des volontaires qui vont tester la grille. Déjà, des volontaires, tu vas peut-être pas en avoir beaucoup, mais c'est costaud, quoi.
Ouais, non, c'est...
Donc, mais malheureusement, ouais, c'est ça. Il faut la retoucher, la retravailler et essayer de la rendre la plus lisible possible, mais c'est pas du tout un travail évident, quoi. Surtout le plus important, c'est la description des niveaux par critère, et ça, c'est pas simple à faire, quoi. Ouais. Mais effectivement, hein, donc définir le nombre de points, si vous pouvez ou pas, définir les critères, et là c'est compliqué aussi parce que tu peux aller très loin dans les critères. Par exemple, tu vois ce que tu viens de faire sur j'en ai fait. Mmh. Est-ce que tu veux évaluer aussi la capacité d'autocorrection d'un apprenant? C'est un truc, tu vois, c'est un truc aussi ça apparaît dans les descripteurs. Donc le contrôle grammatical, etc. Donc on peut aller très loin. Il faut se mettre d'accord sur les principaux critères, ceux qui nous semblent les plus pertinents. Il faut ensuite leur mettre un nombre de points. Est-ce que tous les critères ont la même valeur dans une note finale?
Ah oui, non.
Est-ce qu'ils ont le même nombre de points dans notre colonne? Est-ce que finalement il va y avoir plus de points pour tel aspect, moins de points pour un autre? Parce que effectivement, si tu évalues la forme d'un courriel, peut-être que c'est plus facile quand même à acquérir que par exemple raconter au passé une expérience, tu vois. Mmh. Et puis est-ce que tu vas avoir le même nombre de niveaux par critère, parce que si on reprend la forme du courriel, tu peux dire elle est respectée ou elle n'est pas respectée. Elle n'est pas à moitié respectée, tu vois. Mmh. Tu peux demander ça. Et puis, ou d'autres critères qui vont demander, eux, plus de détails. Donc, tu peux jouer aussi, tu peux jouer là-dessus. Et surtout, l'erreur à éviter, je vous le dis parce que moi, je l'ai faite souvent, cette erreur, c'est de mixer les critères. Par exemple, se faire un critère orthographe et ponctuation. Mmh. Et là, tu vas dire, par exemple, nombreuses fautes d'orthographe et de ponctuation, peu de fautes d'orthographe et de ponctuation, pas de fautes d'orthographe et de ponctuation, tu vois, par exemple. Et puis, tu vas te retrouver forcément à un moment avec un apprenant qui a une bonne ponctuation et plein de fautes d'orthographe. Et là, tu fais comment?
Mais c'est vrai que quand on avait fait cette fameuse grille d'auto-évaluation, je veux dire, on avait passé, rien que pour la grille, on avait passé toute une journée. On devait être 4 ou 5 profs quand même. On était parti d'un remue-ménage avec des post-it, il y en avait partout, qu'on a essayé de regrouper, etc. Et à la fin, on avait une première grille, hein, ce qui est celle qu'on a utilisée, qui était encore assez massive, mais qui aurait mérité effectivement encore de nombreux ajustements. Donc c'est assez complexe, et je pense que ça rejoint un petit peu l'intérêt d'être dans une institution qui a un référentiel propre à l'institution. Je pense que je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi la présence, si un référentiel a déjà été fait dans l'institution, ça peut aider du coup un un enseignant, s'il a envie de créer des grilles supplémentaires pour ses cours, à travailler tout seul, parce qu'il reste au moins déjà un petit peu dans le cadre, surtout s'il y a pas mal de mouvements entre les enseignants dans cette institution-là, pour que les élèves ne soient pas perdus et ne soient pas évalués sur des choses complètement différentes. Ça peut aider peut-être un petit peu aussi à formuler toutes ces différentes étapes, je ne sais pas.
Ah, clairement, parce que là, on parlait d'évaluation sommative, donc concrètement pour un niveau, quoi. Mais si vous regardez le diplôme de compétences en langue, hein, le DCL, là, pour le coup, c'est la même épreuve pour tout le monde. Et en fait, en fonction de comment tu accomplis ta mission de départ, eh ben, tu vas avoir un niveau A2, un niveau B1, un niveau B2, tu vois, C1 aussi. Mmh. Donc là, ça veut dire que ta grille, elle est hyper complexe. J'essaierai de mettre le lien, mais je crois qu'elles sont pas publiques, ces grilles du DCL. Moi, je les ai déjà vues et testées un peu. C'est compliqué parce que là, ça veut dire que tous les apprenants que tu vas évaluer ont potentiellement des niveaux différents.
D'accord,
entre le A2 et le C1.
Ça revient
et
un petit peu au TOEIC, alors, ce genre de choses, quoi, pour le...
Ouais, c'est ça.
Pour le principe, après, pour l'évaluation, je pense qu'elle est, peut-être différente, mais... Ouais, le DCL, je connais pas du tout, j'ai juste un peu consulté, là, en préparant l'émission, un document notamment de Christian Puren, et il parlait justement du DCL, parce qu'il y avait, en essayant de définir l'évaluation... Bah, il disait, voilà, selon les contextes, alors là, je parle de contexte, donc par exemple de tel diplôme ou de tel diplôme, la terminologie n'était pas exactement la même. Donc, et notamment pour le DCL, il y avait une distinction qui était un petit peu différente du reste. D'accord. Je ne sais pas si. Les grilles ne sont pas du tout accessibles, tu ne sais pas ?
Ouais, je ne pense pas, parce que.
C'est pas très formatif tout ça.
Non, mais c'est pas ça. Mais justement, si tu veux être évaluateur du DCL, il y a une formation assez longue à suivre. Donc, je pense pas qu'il ait publié comme ça leur grille. Mais tu as des trucs sur la quantité d'informations relevées dans les documents, sur comment tu traites l'information, comment tu l'organises. Donc, c'est assez complexe à utiliser, quoi. Et par exemple, pour le niveau syntaxique, ils vont regarder au niveau du verbe, comment tu utilises tes verbes, tu vois, ils vont détailler vraiment beaucoup, quoi.
Mm-hmm. D'accord.
T'as une grille un peu monstrueuse face à toi.
Ouais, il faut l'avoir sacrément bien assimilé quand même avant de...
Ouais, et c'est pour ça qu'ils font des formations.
Fois, ça doit être costaud, hein. Ça va vite, hein, en général, hein, les...
Bah, de toute façon, on vous mettra les liens de nos lectures. Alors, bah, comme à chaque fois, pour les agités de la classe, on ne se veut pas non plus exhaustif ni spécialiste.
Ah non, pas du
tout. On parle de nos pratiques. Donc, ce qu'on a pu dire, nous, c'est ce qui nous paraît pertinent dans notre expérience. Mais peut-être que, et d'ailleurs, on le souhaite, que des spécialistes ou des gens plus experts que nous peuvent commenter, soumettre leur grille ou dire qu'on a dit des bêtises. Tout ça, bien sûr, dans les commentaires de l'émission, sans aucun souci. Hein, on continue la discussion là-dessus. Mais on vous mettra, en tout cas, avec Fred, les liens des documents qu'on a consultés ou qu'on consulte régulièrement pour travailler nos grilles, justement.
Ouais, quelques liens à mettre. C'est pas les
ouais.
C'est pas les agités du flux, mais on a quelques liens cette fois-ci.
C'est ça.
Mais c'est les agités de la classe, donc je pense qu'on a plus ou moins fait le tour là, et du coup je te propose de passer directement aux ressources des agités.
Alors Fred, dans les ressources, toi tu voulais nous parler de Trello.
Et tout à fait, je voulais vous reparler plutôt de Trello.
Reparler,
on en parle souvent. Non mais en fait, je l'ai beaucoup utilisé, en fait je l'ai utilisé on va dire plutôt un petit peu différemment ces derniers temps, notamment pour la préparation de la nouvelle plateforme Agito en archivant plein de contenus. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé le clavier... En travaillant un petit peu vite, et parfois j'ai découvert des choses, il y a des choses un peu extraordinaires qui se sont passées, donc je voulais vous en toucher un petit peu de quelques mots sur quelques petites choses qu'on peut faire avec Trello et que je ne savais pas dans la création de cartes. Notamment, quand vous copiez-collez un paragraphe, du moment que vous avez, on va dire, une première ligne, un retour à la ligne et ensuite un paragraphe, si vous copiez ce genre de bloc texte directement sur Trello, il va créer une carte prenant le titre de la carte devient donc la première ligne de votre bloc texte, et la description de la carte sera l'onglet, les paragraphes suivants, en fait.
Et c'est la... top, ça.
Et ouais, c'est top. J'ai découvert ça, bien sûr, au bout de 30 ou 40 numéros d'Agitox. Mais bon, il m'en restait presque une centaine à faire, donc j'étais quand même content. Donc c'est super top. Il faudra vraiment qu'on l'ajoute à la fiche de description de Trello, et puis surtout que je me décide à faire un tutoriel dessus. La carte, en fait, est créée, petit détail aussi, dans la liste au-dessus de laquelle vous avez votre curseur de souris. Voilà. Et un truc encore mieux, si vous avez juste un lien, je sais qu'il y a beaucoup de profs, on en parle assez souvent pour alors comment gérer ses ressources, et notamment les ressources qui sont Internet, les collections de liens. Alors, il y a plein de sites qui permettent de faire des sortes de sitographie, voire pourquoi pas collaborative, etc. Si vous utilisez un petit peu Trello pour ça, si vous copiez un lien et que vous utilisez la même technique. Donc attention, il ne faut pas créer la carte. Vous faites juste un copier-coller dans une fenêtre Trello en ayant le curseur sur une liste. Et bien en fait, il va créer une carte à partir du lien. Mais en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir le lien. Il va chercher dans les métadonnées de la page concernée le titre de la page. S'il y a un descriptif pour cette page, et il va me faire un script, et il va même faire une capture d'écran, j'allais dire un screenshot. Donc en fait, ça vous crée une carte directement. Par exemple, si vous mettez le lien de Agito au hasard dans votre Trello, et ben tout simplement, il va faire une capture d'écran où il va prendre la photo, on va dire à la une de la page concernée. Il va récupérer le nom de la page, donc ici ça va être Agito, ou même Agito, le flux en action, je pense qu'il prend la tagline avec. Et en description, il va mettre la description que moi j'ai mis dans les métadonnées de la page Agito. Donc c'est super pratique, et c'est beaucoup plus parlant que de juste avoir un lien. Voilà, donc j'ai découvert ces deux trucs-là, et il y a un troisième petit truc qu'on avait découvert un petit peu au même moment, Seb, donc je pense qu'ils l'ont mis... Ils l'ont lancé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que maintenant dans Trello on peut mettre donc des étiquettes, des tags de couleurs, sauf que jusqu'à maintenant on voyait juste la couleur quand on regardait le tableau de manière générale, et on ne pouvait pas voir le descriptif du tag ou l'intitulé du tag parce que ça prend trop de place. Il est possible maintenant, quand on clique sur la couleur ou donc ce tag, de faire afficher l'intitulé du tag à l'intérieur du tag. Bon, ça prend un peu plus de place, mais c'est assez pratique, et il suffit de recliquer dessus.
C'est carrément pratique.
C'est bien pratique, nous on en a bien besoin. Et il suffit si on n'aime pas trop ça, on peut après recliquer dessus et ça revient en mode normal. Donc soit on peut rester tout le temps comme ça, soit on peut l'activer de temps en temps. Voilà, trois petites astuces que j'ai découvert avec Trello qui font que j'aime toujours autant cet outil.
Ouais, top. Bah, pareil, si tout à l'heure tu parlais de liste, si t'as une liste et que tu... mais ça c'est vieux hein, déjà comme truc, tu crées une carte et tu copies ta liste dedans, il te propose toujours l'option de créer autant de cartes que de points de ta liste, ou de mettre toute ta liste en une carte, et ça c'est vraiment pratique aussi.
Hein. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais tu dis c'est vieux, mais les deux premières fonctionnalités, je n'ai aucune idée de savoir si c'est nouveau ou pas. La deuxième peut-être aussi, parce qu'il va chercher les infos et tout ça, donc c'est un peu gourmand en ressources, donc ça m'étonnerait que ce soit amusé ça à faire au tout début. Par contre, la première, peut-être que ça existe, c'était déjà comme ça au début, hein, c'est juste que j'ai découvert ça récemment.
Ouais. Cool.
Ouais, super. Cool. Et toi Seb, tu nous parles d'une nouvelle ressource
Alors moi, je vais vous parler de Moodle, je vais vous reparler de Moodle, et je vous parle de la version de Moodle qui est la version 3.3.2+, donc la toute dernière version de Moodle, qui permet de faire des choses assez top, notamment par exemple, donc en général Moodle, quand vous créez un cours, dans votre cours vous pouvez ajouter des ressources qui peuvent être des documents, ça peut être des étiquettes, donc c'est un peu une espèce d'espace de texte où dans lequel vous pouvez mettre du code embarqué pour des vidéos, vous pouvez aussi travailler la mise en page, etc. Vous pouvez mettre des exercices interactifs, vous pouvez mettre des quiz, etc. Et en fait le truc avant, c'était que vous pouviez le mettre soit visible ou caché pour les apprenants. Donc visible ou caché, c'était à peu près la seule option que vous aviez au niveau de la mise en page de votre cours. Et en fait, ce qu'ils ont ajouté maintenant, quand vous cachez une ressource, si vous recliquez sur le menu modifier, vous pouvez rendre disponible une activité. Donc, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'en fait, elle reste toujours invisible pour les apprenants, mais elle existe, elle est vraiment accessible pour eux. Donc, si vous voulez, dans une étiquette, mettre des images et puis, en fait, mettre un hyperlien sur ces images, vous pouvez le faire avec un hyperlien qui renvoie vers ces activités-là. Donc, concrètement, votre apprenant, au lieu d'aller chercher ces icônes de documents et tout ça, vous faites une image, le document du cours, et quand ils cliquent sur cette image, eh ben, ça va simplement ouvrir le document et ils auront plus toute la liste des ressources que vous avez sur le cours. Donc ça permet de jouer sur pas mal de choses dans la mise en page de votre cours. Et dernier truc, c'est qu'avant, on avait le choix pour la mise en page d'un cours entre thématique ou hebdomadaire. Hebdomadaire, vous aviez donc des sections, avec une section par semaine dans laquelle vous mettiez vos ressources, et thématique, vous aviez une section par thème, et c'était toujours à peu près pareil. Hein. Là, maintenant, ils ont rajouté un truc qui est sympa, c'est une vue par grille d'images. C'est-à-dire que chaque section de votre cours est en fait une image. Donc ça apparaît comme une petite étiquette, une petite carte. Et quand vous cliquez sur la carte, eh bien vous avez une espèce de fenêtre pop-up un peu par transparence dans laquelle toutes les activités de votre section apparaît et ils peuvent les faire directement à partir de là. Donc ça aussi ça comment on va dire, ça allège, ça embellit un peu la présentation d'un cours, puisque du coup on va avoir des cartes. Ça, ce sera la fenêtre principale. Et à chaque fois qu'on rentrera dans une carte, on aura une espèce de petite fenêtre qui va s'ouvrir avec toutes les ressources que vous y avez mises. On peut fermer, on revient sur les cartes. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus joli. Et en plus, dans ces cartes, vous pouvez personnaliser les images comme vous le souhaitez.
C'est plutôt bien. Quoi, c'est vraiment sympa, parce que moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai de Moodle. Pourtant, en plus, Moodle, c'est quoi? C'est un logiciel libre, en plus, non? Je pense, non?
Ouais.
Je sais pas. Ouais, bah, pourtant, je devrais être fan, alors. j'ai vraiment eu du mal. Bon, peut-être que c'est bien que tu aies à t'en servir à ce point-là, parce que du coup, quand on est un peu obligé, entre guillemets, je pense que tu es un peu obligé, on creuse, on fait avec, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire des choses sympas, et puis qu'on s'approprie un outil, alors que j'ai pas fait l'effort, mais c'est vrai que, moi, j'ai vraiment cette image de Moodle, de fouillis, des trucs un peu partout. Il faut appuyer sur des machins pour que ça sorte, pour que ça apparaisse. Quand ça apparaît, on ne sait plus où on est. Et au niveau expérience utilisateur, c'était vraiment l'horreur. Et voilà, quoi, quand on est déjà face à des nouveaux savoirs, voire des nouvelles compétences, et donc déjà on est paumé vu que c'est nouveau. Si en plus le logiciel qui est censé nous les apporter, ça part dans tous les sens, c'est un peu dommage. Donc c'est bien, des bonnes nouvelles.
Après Moodle, voilà, c'est toujours pas ce qu'il y a de plus ergonomique, hein, si tu compares à une application, etc. Mais il y a des efforts qui sont faits, mais c'est vrai qu'à la base, quand même, Moodle, donc c'est open source, donc on vous livre comme ça une version brute, utilisable. Mais si vraiment on veut la personnaliser, bah il faut plonger dans le code, et un prof, moi je sais pas faire ça, quoi. Et là quand même, avec les outils qui sont mis à disposition, on peut essayer de bricoler la mise en page pour que ce soit plus sympa, plus ergonomique, même si c'est toujours pas non plus un super modèle d'ergonomie, de simplicité, hein. Et du côté prof, c'est pareil, c'est chercher les options, trifouiller les paramètres et tout ça, ça reste toujours compliqué. Hein.
Pourtant, elle est quand même bien, vachement utilisée, cette plateforme, non? J'ai l'impression.
Oui, mais elle est souvent personnalisée, tu vois.
Il n'y a pas des universités qui se sont dit un jour, on va mettre quelques petits fonds de côté, on va tous les mettre ensemble et on va essayer de parce que ça joue, on s'en rend compte énormément, surtout dans nos sociétés actuelles, on est très dans le visuel, etc. Pour qu'un logiciel soit massivement accepté, utilisé et qu'il se développe, c'est dans l'expérience utilisateur et dans la présentation que ça se joue. Hein. On a eu un exemple récent, il n'y a pas très longtemps, avec le Mastodon, là, c'est l'alternative à Twitter, qui est une alternative logiciel libre, complètement décentralisé. Hein, c'est le même système que les échanges de pair à pair, donc il n'y a pas de serveur central. Il y a différentes instances qui sont créées et toutes les instances peuvent communiquer entre elles. Bref, en fait, ça s'est développé à une vitesse dingue parce que, alors, on peut trouver des défauts, hein, à l'UX, hein, il y a des choses qui sont pas très très claires, mais ça a de la gueule. ça a de la gueule. Voilà. Et c'est ce qui fait que, ben voilà, il y a plein de gens qui sont jetés dedans. Quand il y a plein d'utilisateurs, il y a beaucoup de personnes qui veulent l'améliorer. Et il y a parfois plus des sociétés ou des fonds qui sont débloqués. Donc, voilà. S'il y a des gens qui nous entendent, des sociétés, débloquer un petit peu de fonds. Je sais que plus personne n'a d'argent, mais plutôt que de faire chacun des améliorations de votre côté pour améliorer cette expérience utilisateur sur Moodle, et ça serait top qu'ils soient encore plus utilisés.
Ouais, il faudrait juste qu'ils soient un peu plus personnalisables que ça, quoi. Parce que là, c'est tu peux choisir un thème, mais dans le thème, tu peux pas jouer beaucoup, quoi. Donc si t'as envie de personnaliser tes couleurs, ne serait-ce que, tu vois, personnaliser un logo, c'est tout de suite celui qui a les clés du serveur qui peut le faire, quoi.
Ah ouais, carrément. Ouais. Donc, on n'y est pas encore.
C'est vrai que c'est... ouais. Ça manque un peu de tout ça. Mais bon, voilà. C'est... chaque fois qu'on crée un devoir, chaque fois qu'on crée un devoir, il y a plein de paramètres à prendre en compte qui sont des paramètres plutôt administratifs pour l'administration du devoir. Mmh. Graphiquement, il n'y a pas trop d'options pour l'instant. Mais ça avance. Et là, c'est pas mal.
Mais ouais, c'est bien, bon. C'est super.
Bah voilà, je crois qu'on en a terminé pour nos ressources.
C'est tout pour cet épisode 13 des Agités de la classe. Vous pouvez donc, comme d'habitude, nous retrouver sur le site Agito, où comme l'a précisé Seb, la discussion continue. S'il vous plaît, apportez votre expérience, contredisez-nous, montrez-nous vos grilles. S'il y a un expert dans les parages, qu'il vienne, qu'il se fasse savoir, on peut même faire un agité du FLE avec lui, pourquoi pas dessus. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver donc sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter aussi, j'en oublie. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud. Vous pouvez nous laisser plein d'étoiles à évaluation sommative sur 5 points sur iTunes. Et puis voilà. Et comme on vous l'avait précisé, on va vous laisser un petit peu quelques liens dans les notes de l'émission. On vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bon cours à tous.
Bon cours.